Chapitre 2. Une page de l'histoire moderne. Lupin lança violemment ses deux poings de droite et de gauche, puis les ramena sur sa poitrine, puis les lança de nouveau, et de nouveau les ramena. Ce mouvement, qu'il exécuta 30 fois de suite, fut remplacé par une flexion du buste en avant et en arrière, laquelle flexion fut suivie d'une élévation alternative des jambes, puis d'un moulinet alternatif des bras. Cela dura un quart d'heure, le quart d'heure qu'il consacrait chaque matin pour dérouiller ses muscles à des exercices de gymnastique suédoise. Ensuite, il s'installa devant sa table, prit des feuilles de papier blanc qui étaient disposées en paquets numérotés, et, pliant l'une d'elles, il en fit une enveloppe, ouvrage qu'il recommença avec une série de feuilles successives. C'était la besogne qu'il avait acceptée et à laquelle il s'astreignait tous les jours, les détenus ayant le droit de choisir les travaux qui leur plaisaient. Collage d'enveloppes, confection d'éventails en papier, de bourses en métal, etc. Et de la sorte, tout en occupant ses mains à un exercice machinal, tout en assouplissant ses muscles par des flexions mécaniques, Lupin ne cessait de songer à ses affaires. « Ah, c'est vous, excellent geôlier. Est-ce la minute de la toilette suprême? La coupe de cheveux qui précède la grande coupe finale? Non. L'instruction, alors? La promenade au palais? Oh, ça m'étonne, car ce bon monsieur Formerie m'a prévenu ces jours-ci que, dorénavant et par prudence, il m'interrogerait dans ma cellule même, ce qui, je l'avoue, contrarie mes plans.
« Une visite pour vous, »
dit l'homme d'un ton laconique. Hein, ça y est. Et tout en se rendant au parloir, il se disait « Nom d'un chien, si c'est ce que je crois, je suis un rude type. En 4 jours et du fond de mon cachot, avoir mis cette affaire-là debout, quel coup de maître !» Muni d'une permission en règle, signée par le directeur de la première division à la préfecture de police, les visiteurs sont introduits dans les étroites cellules qui servent de parloir. Ces cellules, coupées au milieu par 2 grillages que sépare un intervalle de 50 cm, ont 2 portes qui donnent sur 2 couloirs différents. Le détenu entre par une porte, le visiteur par l'autre. Ils ne peuvent donc ni se toucher, ni parler à voix basse, ni opérer entre eux le moindre échange d'objets. En outre, dans certains cas, un gardien peut assister à l'entrevue. En l'occurrence, ce fut le gardien-chef qui eut cet honneur. « Qui diable a obtenu l'autorisation de me faire visite ?» s'écria Lupin en entrant. « Ce n'est pourtant pas mon jour de réception. » Pendant que le gardien fermait la porte, il s'approcha du grillage et examina la personne qui se tenait derrière l'autre grillage et dont les traits se discernaient confusément dans la demi-obscurité. « Ah ! Ah, c'est vous, monsieur Stripani ! Quelle heureuse chance !
Oui, c'est moi, mon cher prince !
Non, pas de titre, je vous en supplie, cher monsieur. Ici, j'ai renoncé à tous ces hochets de la vanité humaine. Appelez-moi Lupin, c'est plus de situation. »
« Je veux bien, mais c'est le prince Cernine que j'ai connu. C'est le prince Cernine qui m'a sauvé de la misère et qui m'a rendu le bonheur et la fortune. Et vous comprendrez que pour moi, vous resterez toujours le prince Cernine. »
« Au fait, monsieur Stripani, au fait, les instants du gardien-chef sont précieux et nous n'avons pas le droit d'en abuser. En 2 mots, qu'est-ce qui vous amène ?»
« Ce qui m'amène, oh mon Dieu, c'est bien simple. Il m'a semblé que vous seriez mécontent de moi si je m'adressais à un autre qu'à vous pour compléter l'œuvre que vous avez commencée. Et puis, seul, vous avez eu en main tous les éléments qui vous ont permis à cette époque de reconstituer la vérité et de concourir à mon salut. Par conséquent, seul, vous êtes à même de parer au nouveau coup qui me menace. C'est ce que monsieur le préfet de police a compris lorsque je lui ai exposé la situation.
Je m'étonnais en effet qu'on vous eût autorisé.
Le refus était impossible, mon cher prince. Votre intervention est nécessaire dans une affaire où tant d'intérêts sont en jeu, et des intérêts qui ne sont pas seulement les miens, mais qui concernent les personnages haut placés que vous savez. »
Lupin observait le gardien du coin de l'œil. Il écoutait avec une vive attention, le buste incliné, avide de surprendre la signification secrète des paroles échangées. « De sorte que,
mon cher prince, je vous supplie de rassembler tous vos souvenirs au sujet de ces documents imprimés, rédigés en 4 langues, et dont le début, tout au moins, avait rapport... »
Un coup de poing sur la mâchoire, un peu en dessous de l'oreille. Le gardien-chef chancela 2 ou 3 secondes, et comme une masse, sans un gémissement, tomba dans les bras de Lupin. Ah, bien touché. Ah, c'est de l'ouvrage proprement fait. Dites donc, Steinweg, vous avez le chloroforme ?
Êtes-vous sûr qu'il est évanoui ?
Tu parles ? Il en a pour 3 ou 4 minutes. Mais ça ne suffirait pas. L'Allemand sortit de sa poche un tube de cuivre qu'il allongea comme un télescope et au bout duquel était fixé un minuscule flacon. Lupin prit le flacon, en versa quelques gouttes sur un mouchoir et appliqua ce mouchoir sous le nez du gardien-chef. « Parfait. Le bonhomme a son compte. J'ai coperé pour ma peine 8 ou 15 jours de cachot. Mais ça, ce sont les petits bénéfices du métier. »«
Et moi ?»«
Vous ? Que voulez-vous qu'on vous fasse ?»«
Dame, le coup de poing ?»«
Mais vous n'y êtes pour rien. »«
Et l'autorisation de vous voir ?» C'est un faux, tout simplement.
Mais vous n'y êtes pour rien.
J'en profite.
Pardon. Vous avez déposé avant-hier une demande régulière au nom de Stripani. Ce matin, vous avez reçu une réponse officielle. Le reste ne vous regarde pas. Mes amis seuls, qui ont confectionné la réponse, peuvent être inquiétés. Va-t'en voir s'ils viennent.
Et si l'on nous interrompt ?
Pourquoi ?
On a eu l'air suffoqué ici. Quand j'ai sorti mon autorisation de voir Lupin, le directeur m'a fait venir et l'a examiné dans tous les sens. Je ne doute pas que l'on téléphone à la préfecture de police.
Et moi, j'en suis sûr.
Alors ?
Tout est prévu, mon vieux. Ne te fais pas de bile et causons. Je suppose que si tu es venu ici, c'est que tu sais ce dont il s'agit.
Oui, vos amis m'ont expliqué.
Et tu acceptes ?
L'homme qui m'a sauvé de la mort peut disposer de moi comme il l'entend. Quels que soient les services que je pourrais lui rendre, je resterai encore son débiteur.
Avant de livrer ton secret, réfléchis à la position où je me trouve. Prisonnier impuissant.
Non, je vous en prie, ne plaisantons pas. J'avais livré mon secret à Kesselbach parce qu'il était riche et qu'il pouvait, mieux qu'un autre, en tirer parti. Mais tout prisonnier que vous êtes et tout impuissant, je vous considère comme 100 fois plus fort que Kesselbach avec ses 100 millions.
Oh !
Et vous le savez bien, 100 millions n'auraient pas suffi pour découvrir le trou où j'agonisais, pas plus que pour m'amener ici pendant 1 heure devant les prisonniers impuissants que vous êtes. Il faut autre chose, et cette autre chose, vous l'avez.
En ce cas, parle, et procédons par ordre. Le nom de l'assassin.
Cela, impossible.
Comment impossible ? Mais puisque tu le connais, et que tu dois tout me révéler.
Tout, mais pas cela.
Cependant,
plus tard.
Tu es fou, mais pourquoi ?
Je n'ai pas d'épreuves. Plus tard, quand vous serez libre, nous chercherons ensemble... À quoi bon, d'ailleurs ? Et puis, vraiment, je ne peux pas.
Tu as peur de lui ?
Ya !
Soit. Après tout, ce n'est pas cela le plus urgent. Pour le reste, tu es résolu à parler ?
Surtout.
Eh bien, réponds. Comment s'appelle Pierre Leduc ?
Hermann IV, grand-duc de deux ponts Veldenz, prince de Bernkastel, comte de Fistingen, seigneur de Wiesbaden et autres lieux. »
Lupin eut un frisson de joie en apprenant que, décidément, son protégé n'était pas le fils d'un charcutier.
« Oh, fichtre, nous avons du titre !»
Autant que je sache, le grand-duché de Deux-Ponts-Veldenz est en Prusse.
Ja, sur la Moselle. La maison de Veldenz est un rameau de la maison palatine de Deux-Ponts. Le grand-duché fut occupé par les Français après la paix de Lunéville et fit partie du département du Mont-Tonnerre. En 1814, on le reconstitua au profit d'Hermann Ier, bisaïeul de notre Pierre-le-Duc. Le fils, Hermann II, eut une jeunesse orageuse, se ruina, dilapida les finances de son pays, se rendit insupportable à ses sujets qui finirent par brûler en partie le vieux château de Veldenz et par chasser leur maître de ses états. Le grand-duché fut alors administré et gouverné par trois régents, au nom de Hermann II, qui, anomalie assez curieuse, n'abdiqua pas et garda son titre de grand-duc régnant. Il vécut assez pauvre à Berlin, plus tard fit la campagne de France aux côtés des Bismarck, dont il était l'ami, fut emporté par un éclat d'obus au siège de Paris et, en mourant, confia à Bismarck son fils Hermann, Hermann III.
Le père, par conséquent, de notre le duc.
Ja, Hermann III fut pris en affection par le chancelier qui, à diverses reprises, s'est servi de lui comme envoyé secret auprès de personnalités étrangères. À la chute de son protecteur, Hermann III quitta Berlin, voyagea et revint se fixer à Dresde. Quand Bismarck mourut, Hermann III était là. Lui-même est mouru 2 ans plus tard. Voilà les faits publics connus de tous en Allemagne. Voilà l'histoire des trois Hermann, grand-ducs de Deux-Ponts-Veldenz au XIXe siècle.
Mais le quatrième, Hermann IV, celui qui nous occupe.
Nous en parlerons tout à l'heure. Passons maintenant aux faits ignorés.
Et connus de toi seul.
Et de moi seul et des quelques autres.
Comment, de quelques autres? Le secret n'a donc pas été gardé?
Si, les secrets est bien gardé par ceux qui les détiennent. Soyez sans crainte, ceux-là ont tout intérêt, je vous en réponds, à ne pas les divulguer.
Alors, comment le connais-tu?
Par un ancien domestique et secrétaire intime du grand-duc Hermann, dernier du nom. C'est domestique qui mourut entre mes bras au Cap, mais confia d'abord que son maître était marié clandestinement et qu'il avait laissé un fils. Puis il me livra les fameux secrets.
Celui-là même que tu dévoilas plus tard à Kesselbach.
Ja,